Studio Tamani, voici les informations en français.
Nous sommes lundi 10 mars 2025, il est 8h à Koutiala. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Le président de la République du Ghana était ce week-end à Bamako pour une visite d'amitié de travail. Lors de cette visite de 24 heures, les présidents ghanaiens et maliens ont discuté des relations entre l'AES et la CEDEAO. Le Premier ministre a procédé le samedi 8 mars au lancement des activités de la célébration de la Journée internationale de la femme à Koutiala. Les organisations féminines ont saisi l'occasion pour plaider en faveur de leur autonomisation. Le mois de Ramadan se poursuit. La deuxième décade débute ce lundi, consacrée au pardon d'Allah. Les érudits invitent le jeûneur à multiplier les actes d'adoration afin de bénéficier de ce pardon. Voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes avec Imirana Kilomaïga à la mise en onde de Mamadou Ouattara. Je le disais dans les titres, le président de la République du Ghana effectue ce samedi 8 mars 2025 une visite d'amitié et de travail de 24 heures à Bamako. Le séjour de John Dramani Mahama au Mali, premier du genre depuis son investiture, s'inscrit dans le cadre de la consolidation de liens entre Bamako et Accra. Cette visite vise également l'ouverture des perspectives promoteuses pour une coopération accrue entre les deux pays dans le domaine sécuritaire et économique. Le détail avec Moussa Malé Sissoko.
La visite de ce 8 mars a été une opportunité pour les présidents ghanéens et maliens d'échanger sur la coopération bilatérale, selon la présidence de la République du Mali. Le général d'armée Assimi Goïta et John Dramani Mahama ont affiché leur volonté de renforcer les échanges commerciaux, notamment à travers l'exploitation du corridor sud. Pour ce faire, les deux chefs d'État ont mis l'accent sur la nécessité d'améliorer les infrastructures et de simplifier les procédures douanières. Ils ont évoqué également la nécessité de mutualiser les efforts dans la lutte contre le terrorisme, l'importance d'une coordination entre les forces de sécurité et les relations entre l'AES, Confédération des États du Sahel, et la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il faut rappeler que ce voyage présidentiel ghanéen à Bamako a été précédé par celui effectué en Côte d'Ivoire le 5 mars dernier. Au cours de cette visite, son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara lui a exprimé toute sa confiance afin qu'il puisse convaincre le Mali, le Burkina et le Niger de rester au sein de la CEDEAO. Le président ghanéen a ainsi insisté sur le besoin de rétablir un dialogue respectueux et constructif entre l'AES et la CEDEAO.
Après le Mali, John Dramani Mahama a effectué hier dimanche une visite de travail et d'amitié à Niamey au Niger. Il est attendu ce lundi à Ouagadougou au Burkina Faso. Cette visite du président ghanéen pourrait-elle mener à la réintégration de l'AES au sein de la CEDEAO? Selon l'analyste politique Dr Hamadou Touré, cela semble impossible. Néanmoins, pour l'enseignant-chercheur, cette visite pourrait renforcer le lien entre le Mali et le Ghana, ouvrant ainsi des perspectives de coopération renforcée entre les deux pays. Et le joint par Maman Babakunta.
Une mission impossible à ce jour, vu l'état de méfiance entre les deux blocs, l'état de velléité qui existe encore. Malgré que le Ghana joue la carte de la neutralité au sein de la CEDEAO, même au sein de l'AES, toutefois la confiance sera de mise à ce niveau. Les enjeux sont notamment économiques, parce que le Mali est un poids économique pour le Ghana, vice-versa. Les plateformes maritimes seront des opportunités pour l'AES. Et le Ghana aussi est en train de jouer une stratégie géoéconomique pour s'imposer au sein de la CEDEAO en tant que porte-voix, en tant que trait d'union entre l'AES et la CEDEAO. Mais ce qui est possible au regard des échanges avec le président Son Excellence Assimi, c'est plutôt une collaboration franche entre les deux entités, l'AES et la CEDEAO, dans la sous-région.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gaz d'un développement humain durable. C'est le thème national de la 31e édition de la Journée internationale de la femme, édition 2025. Cette année, c'est la capitale de l'or blanc, Koutiala, qui a eu l'honneur d'abriter le lancement officiel des activités de cette journée. C'était sous la présidence du Premier ministre général de division, Abdoulaye Meïga. Lors de l'événement, les femmes ont plaidé pour une amélioration accrue des actions en faveur de leur autonomisation. de Koutiala, suivant le reportage de notre correspondant David Koulibaly.
Dans la capitale de l'or blanc, les femmes sont sorties massivement pour magnifier cette journée. Madame Gundo Sissoko, présidente nationale de la coordination des associations et ONG féminines CAFO, a saisi l'occasion pour inviter les décideurs à l'application des réformes en cours pour leur autonomisation.
En tant que femmes, nous apprécions vivement ces réformes qui témoignent de la volonté et l'engagement des autorités à promouvoir les droits des femmes. C'est le lieu de plaider pour leur mise en œuvre rigoureuse et pour un engagement collectif afin de garantir leur impact réel sur la vie des femmes et des filles au Mali.
Le Premier ministre général de division Abdoulaye Maïga reconnaît les efforts des femmes pour le développement du pays. Si des progrès ont été faits pour appuyer les femmes dans ce sens, il souligne que beaucoup reste à faire encore.
Pour la deuxième fois, la cérémonie officielle de la célébration de la Journée internationale de la femme se tient hors du district de Bamako. Et ce choix symbolise l'engagement de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, envers les femmes rurales, déterminé à matérialiser sa vision. Pour la défense des droits des femmes, on ne saurait passer sous silence certaines réalisations concrètes, entre autres la nomination des femmes à de hautes fonctions au sein du gouvernement, dans le gouvernorat.
Notons qu'au cours de cette célébration, le Premier ministre a procédé à la pose de la première pierre du vestibule de légitimité traditionnelle. Des équipements en vue d'orienter et d'encourager les femmes rurales vers l'application de nouvelles technologies et techniques de production à impact rapide les ont été remis. De Koutiala, David Koulibaly pour Studio Tamani.
Sur toute autre information, le mois de Ramadan en cours boucle ses dix premiers jours ce lundi 10 mars 2025. Selon le Jérédi, pendant ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala gratifie les fidèles de sa miséricorde. La deuxième décade que nous allons aborder a elle aussi tout son sens, ajoute-t-il. C'est une période réservée au pardon du Créateur sur ses serviteurs. Le jeûneur est appelé à redoubler d'efforts pour bénéficier de ce pardon. Alhassan Modibo Ba, imam de la mosquée de Sarambougou, est joint au téléphone par Mamadou Samasiko.
Ces 10 premiers jours sont le début de ce mois au cours desquels les fidèles s'engagent souvent avec une ferveur sans pareil. Donc les 10 premiers jours sont très très importants. Nous nous projetons sur la deuxième décade qui n'est pas négligeable aussi, qui est une décade qualifiée par le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le pardon d'Allah est différent des pardons des serviteurs entre eux-mêmes. Donc faisons tout pour décrocher le pardon du Seigneur. Nous exhortons l'ensemble de la communauté musulmane à s'accrocher davantage et à prendre plus de courage et à s'adonner à la pratique du jeûne et également de surveiller leur jeûne du mois du Ramadan comme du lait sur le feu afin de pouvoir augmenter la récompense qu'on récolte à la fin de ces jeûnes-là.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Vous entendez parler de plus en plus de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? Quels sont ses avantages et inconvénients? La réponse avec Fatmata Koyo.
L'intelligence artificielle est l'ensemble des procédés techniques et scientifiques qui sont capables de raisonner, d'agir comme les personnes humaines. Elles peuvent même souvent dévancer l'intelligence humaine. Aujourd'hui, avec l'évolution de la science, elle s'impose dans plusieurs domaines, notamment dans l'éducation et les nouvelles technologies. Les systèmes d'IA deviennent de plus en plus aptes à effectuer des tâches spécifiques, de la reconnaissance d'images à la traduction des langues et plus encore. Elles peuvent générer des photos, audio ou encore des vidéos qui sont vraiment réelles. Il faut vraiment beaucoup de vigilance pour ne pas tromper devant l'œuvre de l'IA. L'intelligence artificielle est utilisée dans plusieurs entreprises pour faciliter la communication interprofessionnelle. Elle améliore aussi la qualité du service. En plus de cela, elle offre des opportunités d'emploi et de créativité, surtout dans la robotique. Mais attention, comme toute science, elle a aussi des inconvénients. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, l'utilisation de l'IA peut provoquer la paresse intellectuelle chez les apprenants. Ainsi, ils feront moins d'efforts pour chercher la connaissance. De nos jours aussi, beaucoup de personnes guidées par la mauvaise foi divulguent des informations en se servant de l'intelligence artificielle.
À présent, le résumé de l'actualité de la semaine passée avec Fatih Yatara.
Nous commençons cette rétrospective par les carêmes chrétiens. Les chrétiens sont rentrés en carême le 5 mars dernier. Ces 40 jours sont pour les fidèles un temps de conversion par la prière, la pénitence, le jeûne et l'aumône. Les carêmes prend fin le 17 avril prochain. Autre sujet, c'est l'application des nouvelles taxes sur les services de télécommunication qui sont rentrées en vigueur le mercredi dernier. Selon le gouvernement, ce fonds servira au projet d'infrastructure, de base et de développement social. La semaine a été aussi marqué par l'adoption des mesures pour sécuriser les sites miniers artisanaux. C'est là pour stopper, selon les autorités, les nombreux éboulements des mines d'or qui ont causé des drames humains et environnementaux ces derniers temps. Nous allons clore cette page par la fête de la femme. Les femmes maliennes ont célébré ce samedi la fête du 8 mars à Bamako et dans beaucoup de régions.
Voilà, c'est tout pour cette édition qui vous a été présentée par Imrana Kilomaiga. Merci de l'avoir suivi. Le magazine Parlons de l'environnement s'intéresse au marché du carbone qui est un des plus importants leviers pour baisser les émissions de gaz à effet de serre des entreprises, mais son fonctionnement n'est pas maîtrisé par certains acteurs et des citoyens ignorent même son existence. Pourtant, pour désespérer en plus de valoriser les efforts en matière de conservation et de gestion durable des ressources naturelles, le marché carbone constitue une opportunité unique pour mobiliser des ressources additionnelles. Il agit en faveur de la restauration des terres dégradées, du développement des énergies renouvelables, entre autres. Quel est son intérêt pour le Mali? On en parle dans ce magazine et réalisé et présenté par Mohamed Baba Kunta avec le concours de nos correspondants.
Gaussou Berthe est expert en environnement. Il définit le marché carbone comme un instrument conçu pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'initiative permet de mettre en place un système d'échange de quotas carbone.
Lorsque une entreprise pollue, il met de l'argent à la disposition des acteurs, des pays, d'autres organisations qui interviennent pour mettre en place des activités permettant d'éviter, d'observer ou bien d'atténuer les effets du gaz à effet de serre.
C'était le 1er janvier 2005, à la suite des engagements pris dans le cadre du protocole de Kyoto, que l'Union européenne a créé le plus grand marché du carbone au monde. Le système incite les entreprises à diminuer leur empreinte écologique tout en respectant les objectifs climatiques. Comment fonctionne le marché carbone? Gaussou Berthe revient sur le processus.
L'achat du carbone commence à partir du tonnage, c'est-à-dire le tonne de gaz carbonique que vous arrivez à éviter, bien à atténuer. C'est un processus complexe. Le Mali a des avantages parce que le Mali est considéré comme un puits de carbone.
Des propos, certes, soutenus par Ahmed Sekou Diallo, directeur exécutif de l'ONG AFAD et membre de la société civile malienne. Toutefois, il ajoute que des efforts doivent être faits d'abord, notamment en matière de lutte contre la désertification.
Quand le Mali sera en position de faire ce marché carbone-là, cela voudrait dire qu'on a fait beaucoup d'avancées. On aura beaucoup reboisé, on aura créé de nouvelles forêts, parce que le Mali n'est pas tellement un pays forestier, mais les politiques tendent vers ça.
La politique du marché carbone consiste à faire payer par des émetteurs le coût de la nuisance pour le climat que constituent leurs émissions selon les principes pollueur-payeur. Mais des citoyens interrogés à Bamako, Ségou et Yoroso ignorent l'existence d'une telle idée. Ces derniers souhaitent plus d'informations et de sensibilisation, surtout dans les langues locales.
Marché carbone, ça c'est ma première fois d'entendre parler de ça.
Oui, je connais la taxe carbone parce que j'en ai entendu parler. Moi, je pense que c'est une affaire des pays industrialisés au détriment du tiers-monde.
Ça ne peut pas éradiquer, pour moi, totalement le changement climatique.
Pour expliquer le concept à certains acteurs, un atelier de 2 jours a été organisé à la fin du mois de février à Bamako. L'initiative est de l'Agence de l'environnement et du développement durable et le projet de restauration des terres dégradées au Mali. Pour le coordinateur Madou Diallo, conformément à l'article 6 de l'accord de Paris, la structuration des marchés carbone a pour objectif de mobiliser entre 45 et 125 millions de dollars américains grâce au crédit carbone certifié.
Il est prévu la séquestration de moins 5 millions de tonnes de gaz à effet de serre pour vraiment concrétiser, implémenter le marché carbone. Nous allons monétiser ces émissions de gaz à effet de serre que nous allons séquestrer à travers les initiatives que nous allons mettre en place, notamment les sous-projets de restauration des paysages, les fermes agro-silvopastorales communautaires.
C'est la fin du magazine Parlons de l'environnement. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour un autre numéro.